Concernant la sortie d'Égypte, nous avons expliqué que le peuple d'Israël a été choisi avant sa création d'être le porte-parole de l'absolu, de l'infini béni soit-il, pour dévoiler son vouloir, son ratson. Et nous avons apporté plusieurs versets qui renforcent ce que nous disons, notamment dans Tehilim, en 47, Magid Dvarav le Yaakov, Chukav Mishpatav le Israël. Il fait passer ses paroles par Yaakov, ses lois, ses préceptes, par le peuple d'Israël. Lo asachen le cholgoy. Mishpatim bal yedaoum. Les autres nations ne peuvent pas, ne sont pas les conducteurs de cette lumière. Un autre verset dans Tehilim, en 11, Koach ma'asav higid le amo. La puissance de ses actes, il les fait passer par son peuple. Et là, c'est encore beaucoup plus fort parce qu'il y a une appartenance. Son peuple. Comme si Akadosh Baruch Hu s'est gardé pour lui un peuple. Amzu yatarti li. Vous m'appartenez. C'est-à-dire, nous avons un lien. C'est pas un peuple parmi les autres. C'est mon peuple. Ami. Même au moment de la sortie d'Égypte. Shalach et ami. Pas shalach et ha'am. C'est sortir le peuple. Cette appartenance, c'est pas une appartenance égoïste, c'est une appartenance qui en réalité génère quelque chose. Elle me permet, par cette appartenance, de faire passer par celui qui m'appartient, à qui moi j'appartiens, la volonté que je veux générer dans le monde. Donc en réalité, on a compris que toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est en réalité une arène dans laquelle Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Nous avons donc le devoir d'étudier l'histoire, car dans l'histoire, il y a une vision de la manière dont le Créateur fait avancer la vie. C'est une des questions que l'on pose à la Neshama au moment où elle quitte ce monde. Sipita le Yeshua. Il y a cinq questions que l'on pose à la Neshama. L'une d'entre elles, c'est est-ce que tu as prévu ou vu? Sipita, c'est pas seulement attendre, mais c'est l'histoire. C'est observer, regarder. Comme Har Hatsofim, le mont Scopus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de regarder dans les phénomènes qui se passent dans ce monde, historique, géologique, politique, dans tous les mouvements de ce monde, comment c'est l'action d'Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas cette intelligence de comprendre, de lire les informations du jour, eh bien, c'est comme s'il se passait des choses dans ce monde et nous, on est complètement à l'extérieur de ces choses-là. Il faut bien comprendre que votre étude de la Torah, c'est pas seulement être coincé avec un livre. C'est savoir lire la vie. Pour que vous soyez capable d'écouter, d'entendre, de traduire ce qui se passe autour de vous. Parce que tout parle. La nature parle. Hashamayim mesaprim. Kevod el. Ma'ase yadav shel HaKadosh Baruch Hu magid harakia. Les cieux racontent ce qu'il fait. Le ciel, qui s'appelle Rakia, démontre. Yom le yom yabia omer. Chaque jour exprime quelque chose de nouveau. Velaïla le laïla yechavedaat. Chaque nuit exprime autre chose. Est-ce que vous entendez les jours parler? Est-ce que vous entendez la nuit parler? Ou est-ce que vous entendez juste quand quelqu'un vous parle? Comprenez qu'il y a un langage dans tout. Tout est un grand langage. Ce monde est un grand langage. Et la sagesse, c'est de lire le langage de tout. De savoir le langage des animaux, de savoir le langage des arbres, de savoir le langage du ciel, de savoir le langage de la terre, de savoir le langage du temps. Le problème, c'est « En Omer, ve'en devarim ». Je vous continue le verset. « Bli mishma kolam ». On a beau parler, mais il n'y a personne pour entendre. Alors si vous n'êtes pas là, si on n'est pas là, au Machon Meir, pour vous former, je vais aller loin, hein. Vous n'êtes pas là pour passer un an à étudier la Torah en petit machin, après vous allez sortir. Moi, c'est pas ma façon de voir la Torah. Ma façon de voir la Torah, c'est de préparer des élèves pour être capables de devenir des prophètes. Qu'ils soient capables d'entendre l'univers, les paroles d'Akadosh Baruch Hu à travers l'histoire. À moins que ça, moi, ça m'intéresse pas, moi. À être un petit juif qui fait Torah et Mitzvot, c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin. Faut comprendre ce que ça veut dire faire la Torah et les Mitzvot. C'est savoir être à l'écoute. Et pas seulement être à l'écoute, parce que tu peux être paralysé dans cette écoute, mais être le porte-parole après. Savoir traduire ce que tu viens d'entendre. Shlomo HaMelech, il connaissait le langage des animaux. Il connaissait le langage des arbres. Vous croyez que c'est un sorcier, c'est un magicien? Non, c'est ce que chaque juif doit être capable d'arriver à faire. Le problème, c'est que vous dites, ouais, c'est le roi Salomon, moi qui je suis à côté. C'est ça le problème. Donc à chaque fois, tu fais comme ça, tu repousses, donc tu te réduis toi-même. Et tu ne vois pas les choses en grand. Ah, quand il s'agit d'argent, oui. Tu as envie d'avoir des millions. Et dans la Torah, c'est pareil. Sois millionnaire de la Torah. Sois riche de la Torah. Approfondis. Quand on te donne un shekel, t'essayes d'en faire 1000. Eh bien, quand on te donne un pasouk, essaye de faire 1000 shiurim. C'est pareil. Et ça, c'est le rôle du peuple juif en tant que nation dans le monde. Parce qu'au moment de son apparition à la sortie d'Égypte, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est libéré. Parce que nous sommes là pour libérer Akadosh Baruch Hu. Ça vous paraît bizarre ce que je suis en train de vous dire. Vous avez l'impression que c'est Dieu qui nous libère. Mais en réalité, en nous libérant, il se libère lui-même, parce que personne n'est capable de l'entendre si ce n'est que le peuple d'Israël. D'ailleurs, le prophète Shmuel Hanavi, Shmuel, dans Shmuel Beth, chapitre 7, verset 23, nous dit « Asher padita lecha mi Mitzrayim » qui est en gras, au milieu de la première page, Goy ve Elohav, regardez, dit Samuel, qui tu as libéré d'Égypte? Une nation et son Dieu. Incroyable. Alors vous avez l'impression que c'est seulement la nation d'Israël qui est sortie d'Égypte, oui ou non? Regardez, Shmuel Hanavi, c'est un prophète. Maintenant, quand un prophète parle, c'est la parole de qui? D'Hachem lui-même. Donc Hachem lui-même dit qu'en sortant d'Égypte, un peuple a été sauvé. Mais Elohav aussi, son propre Dieu. Je me suis sorti moi-même de l'exil. De quel exil est sorti Dieu? De l'exil du silence. Du mutisme. Akadosh Baruch Hu était muet dans l'histoire tant que le peuple d'Israël n'était pas révélé. Personne ne sait rien du tout sur ce grand maître de l'univers, parce que son porte-parole n'est pas. Dès que son porte-parole apparaît, eh bien, Akadosh Baruch Hu va sortir de ce mutisme et va commencer à se dévoiler dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il a maintenant trouvé son partenaire, celui qui est seul capable de l'entendre et de diffuser ce qu'il entend. Ameimada Elohi a métaphysi à Ganous Be'am Israël. Donc nous sommes dans la moitié maintenant. Donc ce niveau-là, métaphysique, qui est divin en fait, qui est intrinsèque au peuple d'Israël, il fait partie de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël ? C'est du divin. On est un bloc de divin. Je ne parle pas des êtres physiques que nous sommes. Je parle de la neshama collective du peuple. C'est du divin. Mais cette neshama collective, il va falloir la faire dévoiler dans ce monde. Donc elle va s'habiller, certainement, dans des hommes, dans des femmes, dans des enfants, qui vont être, eux, les porteurs de ce message. Eh bien, ça s'est révélé au moment de la sortie d'Égypte. Donc, « Echelo fia b'itziat mitzrayim. Vehu shina et amivne hayesodi shel ha-metziut. » Donc, ça a changé complètement la structure fondamentale de l'existence. « Nekudat ha-geoula mi-mitzrayim et tzayelen et trilato shel olam chadash ha-shave be'erko livriyat ha-olam. » Donc en réalité, ce point-là, dans le temps, cet axe dans le temps qu'on appelle la sortie d'Égypte, elle est aussi importante que quoi ? Que la création du monde. Parce qu'en réalité, au moment de la création du monde, il n'y avait personne pour témoigner du Créateur. On est d'accord ? Il était tout seul. Et à la sortie d'Égypte, nous avons enfin le témoin. Israël devient le témoin du Dieu créateur. Comment ? Mais parce que il y a des lois dans ce monde.
Il n'y a pas que Israël qui devient témoin, c'est tout le peuple.
Il y a fait, mais la preuve c'est que Israël seulement, à lui seul, a reçu la Torah, donc les paroles de l'infini. Aucune nation n'est venu un jour dire on a reçu les paroles de l'infini. Personne ne peut inventer une histoire pareille. On est d'accord ? Donc tu vois bien qu'il y a ici un choix.
Pourquoi
t'as les gens qui allaient les voir ? Non, il est allé, c'est juste un midrash pour nous. Il n'est pas allé les voir. Ça, c'est un midrash qu'on raconte pour te faire bien comprendre qu'aucune nation n'est capable de faire ça parce qu'elle n'a pas été créée avec les mesures adéquates pour faire ça. C'est ça que le Midrash vient vous raconter. C'est pas qu'il est allé à Kadosh Baruch Hu se promener devant chaque nation, il lui a dit est-ce que tu veux, est-ce que tu peux pas, est-ce que tu veux. Pourquoi chaque nation lui dit dans ce Midrash non, je ne peux pas parce que moi je vis sur le vol, moi je vis sur le meurtre. C'est tout simplement pour te faire comprendre à toi aujourd'hui qu'aucune nation dans ce monde, à part le peuple d'Israël, est capable de recevoir cette parole divine. C'est ça que le Midrash vient raconter. Donc, celui qui a créé le monde, il a créé des lois. Vous voyez que ce monde est rempli de lois. Il y a des molécules chimiques avec des combinaisons secrètes extraordinaires dans ce monde. Il y a des atomes. Il y a des énergies. Toute cette matière-là, ce sont des lois. Comment est-ce que je peux prouver que j'ai créé ce monde en étant capable de défier ces lois ? Comprenez ? S'il y a des lois dans l'univers, qui peut changer ces lois avec sa volonté ? Seulement celui qui les a créées. Donc c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire au moment de la sortie d'Égypte.
Donc ils connaissaient Hachem, c'est-à-dire qu'ils connaissaient une partie d'Hachem selon la nature, les nations.
Voilà.
Mais ils ne connaissaient pas...
Ils ne connaissaient pas Hachem selon une partie de la nature. Ils pensaient que la nature, c'était Hachem.
C'est vrai, on part
Non, 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 c'est son dévoilement, c'est pas lui, pas lui seul. Non, mais il faut faire très attention à ses définitions. Et c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus grand que la nature qu'il a créée, on est d'accord. Alors il se révèle dans la nature, mais il n'est pas que. Alors les Égyptiens qui, eux, respectaient ces lois de la nature, on ne peut pas faire autrement, vous voyez bien que la nature a ses propres lois. Quand tu sors d'un immeuble, ben tu meurs. L'eau, elle a des molécules bien spéciales, qui ne sont pas les molécules du sang. On est d'accord? Alors comment est-ce que l'eau peut devenir du sang? Ben, je ne comprends pas, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a créé l'eau, il peut lui-même arrêter ses règles à volonté et reprendre ses règles quand il veut. Donc, par tout ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, l'Éternel a prouvé que c'était lui le Créateur. Et donc il a fait voir un film, un grand film, aux nations du monde. C'est moi le Créateur. D'ailleurs, sur sa carte d'identité, ou si sur sa carte de visite, comme vous voulez, il y a marqué. Je ne suis pas le créateur du monde, je suis celui qui est fait sortir d'Égypte. Parce que si je suis capable de faire sortir d'Égypte, donc de changer les lois de la nature, forcément vous comprenez naturellement que c'est moi qui ai créé le monde. Donc l'Égypte c'est quoi maintenant, d'après ce que je viens de vous dire?
C'est la nature.
Exactement, c'est les lois de la nature. Donc c'est la prison de la nature. C'est ça en réalité. C'est la nature emprisonnée dans ses propres lois. Donc sortir d'Égypte, c'est quoi? C'est... Exactement. C'est exploser la nature. C'est défier les forces de la nature. Vous comprenez que c'est cosmique. Vous comprenez que c'est énorme. Et le peuple d'Israël était témoin et acteur de ce défi. Quel? Pardon?
Les 10 plaies, c'était 10 façons de défier la nature, ça?
Exactement.
Alors, en quoi ils passeraient des grenouilles pour défier la nature?
Ben, tout simplement, le nombre de grenouilles, pas comme toi tu l'entends, mais des grenouilles qui rentrent dans le corps de l'homme, dans les fourneaux, dans la quantité et dans la qualité, ça c'est du jamais vu. C'est pas normal, c'est pas naturel. Et les grenouilles parlent à l'intérieur du corps des hommes. C'est des choses qui défient complètement. Les sauterelles, c'est pas la sauterelle qui est hors nature, mais le fait qu'elle cache la lumière à tel point qu'il fait noir. On dit qu'on ne pouvait même pas bouger. Pas parce qu'il y avait beaucoup de sauterelles, parce que c'était noir. Il n'y avait plus de lumière. Ça, c'est pas naturel. C'est une quantité illogique, irrationnelle. Mais tous ces degrés-là, et puis je les enlève quand ça me change. Qui est capable de faire une chose pareille? Seulement celui qui domine la nature, parce que c'est lui qui l'a créée. Donc c'est la plus grande des preuves que le Créateur est le Créateur au moment où il défie la nature en Égypte. Faire dresser l'eau alors que sa nature c'est de couler, la rendre bloc, faire un passage dans l'eau à pied sec, je traverse, c'est pas normal. Même dans un dessin animé, on va te dire, ça va, c'est une blague. Si celui qui arrive à changer la nature de l'eau, c'est parce que c'est lui qui l'a créée. Donc vous avez ici autant de preuves qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. En combien de paroles l'Éternel a créé ce monde? En 10 paroles. D'où est-ce que tu le sais? Hein? Pirkei Avot. Qu'est-ce que c'est marqué? C'est où dans Pirkei Avot? Chapitre 5, qu'est-ce que dit le chapitre 5? Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Ba'asaram amarot nivra olam. Ok. 10 paroles pour créer le monde. Maintenant, ces 10 paroles, d'après ce qu'on vient de dire, elles étaient obligées d'être dévoilées parce qu'elles étaient inconnues. D'ailleurs, le mot ma'amar, le Zohar, à Kadosh, dit que kol ma'amar bechashai. Ma'amar, c'est en silence. Donc, ne tombez pas dans un film où vous imaginez le Créateur en train de dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça, c'est du bidon, c'est dans le cinéma. Tout est dans le silence. C'est incroyable. Mais c'est tellement silencieux que c'est muet. Parce qu'il n'y a personne, parce qu'Akadosh Baruch Hu est seul. Alors, c'est comme si toutes ces paroles-là, ces 10 paroles créatrices, elles sont tombées où? Dans les oubliettes de l'histoire. Elles ont été avalées par la nature, par les lois de la nature, on ne les voit pas. Donc il fallait les libérer. Donc il fallait 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte, ce n'est pas pour frapper l'Égypte, pour punir les Égyptiens. C'est pour libérer ces paroles emprisonnées dans la nature qui s'appelle l'Égypte.
Mais c'est quoi la première parole? C'est-à-dire que quand il envoie le bâton avec le serpent, on voit le arc du bois qui ressemble à l'arbre, le premier arbre, et on voit le serpent qui ressemble au
narrage.
C'est la première parole.
Alors, exactement. Alors, si il y a une étude secrète, justement dans les livres de Kabbalah, comment les 10 paroles créatrices correspondent aux 10 plaies d'Égypte? Et pas seulement ça, aux 10 paroles qui vont être données sur le mont Sinaï au moment du don de la Torah, parce que c'est les mêmes 10 paroles. Elles ont tout simplement changé de nom. Au départ, on les appelait Asara Ma'amarot, et après elles sont devenues Aseret Hadibrot. Et là aussi, il faut connaître les nuances dans la langue hébraïque. Quelle est la différence entre Ani Omer et Ani Medaber?
Dire et parler.
Quoi, dire et parler? Et alors, comment...
Ah, quelqu'un est comme dans le nom.
Bien fait. Donc, Ani Omer, je dis, mais je ne parle à personne. C'est pour ça qu'au moment de la création, ça s'appelle des Ma'amarot.
Pourquoi on dit pas les Marathiens,
mais non, c'est les morts. Les morts. Ça veut dire que moi, je dis quelque chose, mais toi, étant donné que tu es prophète, je te demande, puisque tu es en train d'écouter, je l'ai dit tout à l'heure, Israël est capable d'entendre les paroles, même quand c'est amar. Et Moshe, c'est le roi. Mais il lui dit, ce que tu as entendu, dis-le. D'accord? Et donc ces Asara Ma'amarot sont tombés dans les oubliettes de l'Égypte, vont être libérés. Donc Ani Omer, et après Ani Medaber. Medaber, c'est avec un interlocuteur. J'ai quelqu'un à qui je dis. Donc en réalité, on a découvert l'interlocuteur d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et ça, ça s'est révélé quand? À la sortie d'Égypte. Enfin, Akadosh Baruch Hu a désigné clairement, devant tout le monde, voilà le peuple que j'ai créé spécialement pour dévoiler ce que j'ai à dire. C'est tout. Ah, ça devient la folie, c'est la jalousie maintenant parmi les nations. Pourquoi eux et pas nous? Bon, tout le monde va vouloir jouer le rôle d'Israël dans l'histoire. Et on va nous voler, nous spolier, essayer de nous prendre cette qualité qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Mais vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. C'est pas un jeu d'enfant. Celui qui est doté de cette force, c'est le seul qui va faire l'histoire. Les autres vont tomber en route. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël, le vrai, continue, parce que c'est le porte-parole de l'infini, il ne peut pas s'arrêter. Donc, au moment où toutes les nations, qui étaient des empires, se sont écroulées autour de nous durant l'histoire, le peuple d'Israël continue. Prenez les chrétiens aujourd'hui. Il n'y a plus rien. C'est du vide. Ils se sont créés des fantasmes. Est-ce que quelqu'un, même les chrétiens religieux, savent aujourd'hui ce que c'est que Noël? Ils ne comprennent rien. L'essentiel, c'est de manger, de se saouler. de passer une soirée sympathique, de mettre un arbre, de se... C'est n'importe quoi, ce sont des inventions, ce sont des... Au fur et à mesure du temps qui passe, ils se sont rajoutés des choses qui n'ont aucun rapport avec les forces. Alors que eux, ils voulaient désigner le jour où, pour eux, Dieu était né. Alors ils appelaient ça Noël. C'est les initiales de Nolad, El. Dieu est né. Mais excusez-moi, mais un Dieu qui naît, il est limité. Moi, mon Dieu, il n'est pas né. Il est. Il ne peut pas naître. S'il naît, il va mourir. Alors je vais pèleriner là où mon Dieu est enterré. Mais c'est quoi ce cinéma? Moi, je n'ai pas pèleriné Dieu. Dieu est vivant. Vous comprenez? Il n'y a plus rien. Donc le judaïsme tient la route parce qu'il y a ici une force extraordinaire. Je ne peux pas inventer comme ça, avoir reçu des choses qu'on n'a pas reçues. Tu ne peux pas mentir, le mensonge ne tient pas. Elles ne tiennent pas, c'est ce que je suis en train de te prouver. Toi, tu as l'impression qu'elles tiennent parce qu'ils s'appellent chrétiens, mais ils ne tiennent pas. C'est du vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Ça ne tient pas, c'est pas parce qu'il y a deux personnes dans une église qui fait 10 000 mètres carrés que ça tient. Les églises sont vides. Il n'y a personne. Les mosquées, c'est pareil. C'est une évolution archaïque, primitive, qui va se casser la figure. Il n'y a rien qui tient sur rien. C'est rien. C'est toute la base, c'est la racine, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi ils ont appelé ça le Nouveau Testament? Pour changer l'Ancien, en réalité, c'est tous des Juifs au départ. Quand tu dis à un chrétien que Jésus était juif, il devient fou. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que même dans leur subconscient, ils comprennent que le seul peuple qui peut fournir un Dieu, c'est nous. Donc ce que je veux vous faire comprendre par cela, c'est que la sortie d'Égypte a joué un rôle énorme. Donc c'est comme la création du monde.
Pourquoi à l'époque, ils étaient contents de miracles, alors qu'aujourd'hui, on voit plus rien par rapport à l'époque de l'Égypte?
Très bonne question. Les lois de la nature dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand j'ai créé l'eau avec une certaine formule, l'eau, sa nature, c'est de couler. Si l'Éternel qui a créé l'eau dit à l'eau d'arrêter de couler, qu'est-ce qu'il fait? Il change sa nature. Est-ce que ça plaît, entre guillemets, à l'eau? Non. Donc l'eau vient se plaindre devant Dieu, lui dit, allô, c'est un jeu de mots. Pourquoi tu me changes ma nature? Pourquoi tu me transformes en quelque chose de solide alors que je suis un liquide? Et Akadosh Baruch Hu qui n'aime pas blesser, parce qu'il respecte la nature de chaque chose dans ce monde, il est obligé d'accepter la requête de l'eau. L'eau a raison. Et Akadosh Baruch Hu, les sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu a dit à la nature, nature, ma nature chérie, je te demande pardon. Il fallait que je prouve que c'était moi le créateur. Donc il fallait que je change tes lois. Mais je vais te rembourser. Comme j'ai défié tes lois au moment de la sortie d'Égypte, à la fin des temps, je vais sauver le monde en utilisant les lois de la nature. Ça veut dire qu'on ne verra plus des choses miraculeuses. Je vais m'habiller dans la nature sans changer les lois. Et c'est ça la réponse à ta question. Il n'y aura pas de miracle dévoilé à la fin des temps parce que c'est plus la nature de la rédemption finale. La rédemption finale, elle va s'habiller dans la nature. Elle va respecter la nature. Elle n'est pas obligée de se mettre de côté comme dans la première Géoula.
Est-ce que ça ressemble pas au magicien? Est-ce qu'on est arrivé à un stade où on est capable de décrypter les formules de la nature Donc un ange qui peut arriver à changer la nature aujourd'hui, il est capable de modifier la nature. Est-ce qu'aujourd'hui se manifester par quelque chose que l'homme est capable de faire, est-ce que la chaîne, il a envie de passer par ce chemin-là ?
Non, mais tu peux, aujourd'hui tu ne peux pas défier la nature, tu peux jouer un petit peu à faire quelques petites formules, mais tu es loin, loin, loin. Donc tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau de la génétique et au niveau de tout ce que tu veux, ça n'a aucun rapport encore. On est incapable de créer ex nihilo. Incapable. Nous, on prend de la matière pour en faire une autre. Tu peux me créer un moustique, tu peux me créer une mouche. C'est inimaginable. Aujourd'hui, pour avoir un robot qui te sert le café, on dirait qu'est-ce que tu as inventé. Il faut arrêter. C'est-à-dire, on est loin, 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 loin. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mesurer à cette force de l'infini, avec toute cette intelligence intérieure et tout ça. On est très loin. Donc tous ces petits jeux-là, en réalité, ça n'a même pas de... Comme on dit en hébreu, de l'homme marzikmaï. Ça ne contient même pas d'eau. On est très loin de ça.
Okay.
Alors les magiciens de Pharaon, ils ont essayé de faire certaines choses qui ressemblaient quand ils sont arrivés à des degrés où impossible. Impossible. Même eux, à la troisième plaie, ils ont déjà commencé à dire Etzba Elohim Hi. C'est difficile pour nous, on ne peut pas. Parce que c'est plus petit qu'un grain de blé. Et la magie ne peut pas être plus petite qu'un grain de blé. Alors on peut faire de grosses choses, mais là, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Bon, peu importe, mais on voit que même le pharaon, qui était le plus grand de ces magiciens, à la fin lui-même reconnaît. Et il dit, qui est comme toi ? Mikamocha ba'elim yutke vafke. Enfin, il accepte le nom du tétragramme qui dépasse la nature. C'est ça le nom en réalité. Quel est le nom qui se révèle dans la Géoula ? C'est ce tétragramme. Ce tétragramme qui est pas seulement un nom, qui était en cachette et on l'a découvert, on l'a sorti dans une boîte, on a vu trois, quatre lettres, Yud, He, et le Vav et le He, et on s'est dit, tiens, oh, c'est super, il est beau ce nom. Non. Ce nom-là, c'est la force qui défie toute la nature. Parce qu'elle est en dehors du temps. Parce que ce nom-là, il est en dehors de l'espace. Parce que ce nom-là, il est omniprésent, omnipotent. Il n'y a pas de chose pareille. L'oyadati et yutkevaske, le pharaon, dit, je ne peux pas me connecter à ça. Quand on vous dit que vayachbed Hachem et lev paro, qu'Akadosh Baruch Hu a rendurci le cœur du pharaon, comment est-ce qu'il lui a rendurci? Eh bien, c'est écrit dans le verset, vayachbed Hashem yutkevaske. C'est-à-dire, c'est le tétragramme qu'il était incapable de concevoir qui lui alourdissait le cœur. Ça me dépasse. C'est ça que ça veut dire. Je ne peux pas me mettre face à cette force-là, je ne comprends rien. C'est trop fort pour moi. L'Égypte s'appelle Beth Avadim, la maison des esclaves. Tout entière, c'est pour que les Juifs ou les enfants d'Israël sont esclaves en Égypte. C'est ce que vous compreniez jusqu'à maintenant. Mais non, l'Égypte elle-même, y compris le pharaon, qui est le plus grand esclave. Esclave de qui, maintenant, vous comprenez ? De la nature. Donc, tant que tu ne défies pas les forces de la nature, et la nature, c'est quoi en réalité ? Le temps et l'espace, essentiellement, et les hommes. Donc tant que tu ne défies pas ces forces-là, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Donc, qu'est-ce qui représente le temps? Les astres. Les astres représentent le temps, on est d'accord? Quel est le premier astre du temps? Non. Non.
À la Terre?
Non. Exactement. Le Nil. Quel est le mazal? Le mazal, c'est-à-dire, comment on dit? le signe astrologique qui représente en fait toute cette puissance-là de la nature. Le bélier. Qu'est-ce qu'il faut faire à la veille de la sortie d'Égypte? Prendre un bélier. Kadosh Baruch Hu nous demande de prendre un bélier. Pourquoi faire? Vous comprenez ce qu'Kadosh Baruch Hu nous demande? Si vous êtes capable de dépasser la nature, prenez la nature dans vos mains. Vous allez voir que vous la dominez. Vous pouvez l'attacher, cette nature. Et tu vas attacher cette nature au pied de ton lit 4 jours. C'est quoi ça? Si je vous raconte cette histoire au premier degré, vous me dites, mais c'est quoi? C'est de la sorcellerie, c'est n'importe quoi. Maintenant, vous êtes en train de comprendre. Le bélier, quand vous écoutez les astrologues, chaque fois qu'ils commencent à vous donner les 12 signes astrologiques du jour, ils commencent par bélier. Aujourd'hui, vous devriez rester au lit. Okay? C'est ça qu'elle vous dit, Madame Soleil. Et nous, Akadosh Baruch nous dit, bélier, maintenant tu vas l'attacher et tu vas lui faire une shrita. Mais comment? Je vais tuer le temps. Faire une shrita au bélier, c'est tuer le dieu de l'Égypte. Ben parce que c'est le temps. Et comme l'Égypte, c'est les lois de la nature, donc c'est son dieu. Tu comprends ça? Par quoi l'Égypte est gérée? Par la nature. Donc le roi de toute cette nature, c'est le bélier. C'est le premier des arts. C'est lui qui gère tout ça. Donc c'est le premier des arts. C'est un jeu de mots. C'est le premier des arts. Donc on va casser leur propre nature. On va jouer dans leur propre terrain. Et quel est le plus grand miracle de Shabbat HaGadol qui a précédé la sortie d'Égypte? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le bélier? Non? C'est que les Égyptiens passés voyaient dans les maisons des enfants d'Israël un bélier attaché. C'est-à-dire que tu es en train de bafouer mon Dieu. À quoi tu joues? Qui a fait ça? Les enfants d'Israël? Tous ou pas? Non. Est-ce que tout le monde a fait ça ou pas?
Oui.
Non. 20%. 80% n'ont rien fait. N'ont rien fait. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas confiance, ils avaient peur. Ils disaient, attends, mais je ne vais pas aller me confronter maintenant à cette nation en lui disant que tout son truc, c'est du bidon. Je suis capable maintenant d'aller dire aux chrétiens, mais votre religion, elle tient sur rien du tout. Il fallait être capable, il fallait avoir le courage de le faire.
Les 80% sont morts,
hein? Eh bien, bien sûr. Donc maintenant tu comprends, ils sont morts de quoi en fait? Exactement, morts dans la nature. On appelle ça, Makat, Rocher. Ils sont morts pendant la plaie des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la lumière, ils n'ont pas vu Yudkevatke. Aujourd'hui, on est dans une période messianique. Vous le savez. La Gemara le dit, dans Sanhedrin, c'est pas de la Kabbalah. 2000 ans, ça s'appelle Yemot HaMashiach. T'as envie de sortir aujourd'hui? T'as envie de faire partie de la génération qui verra le Mashiach? Oui. Eh bien, il faut que tu arrives à voir ce tétragramme, le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est-à-dire, il faut que tu arrives à dépasser quoi? Ta nature. Tu as des attirances qui t'embêtent un petit peu? Ça veut dire que tu as des petites choses qui t'embêtent dans la vie. Tu as envie de faire des choses qui ne sont pas très 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 cachées. Ça t'arrive? Ça t'arrive. Si tu arrives à dépasser ça, qu'est-ce que tu viens de faire? Ça dépassait ta nature.
Donc, pour dépasser ta nature, ça, tu vois.
Exactement. Je te donne un truc simple. La nuit, c'est fait pour quoi? Pour dormir. Si de temps en temps, tu te lèves la nuit pour étudier, tu as défié la nature? Oui. Donc, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va te faire le lendemain matin? Il va te dire, la nuit, moi, je te l'ai donné pour dormir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies? Mais alors, attends, je vais te donner mais des choses incroyables. Comme tu as changé ta nature, moi, Kadosh Baruch Hu, je vais changer la nature pour toi. Tu comprends comment ça marche? Exactement. C'est dépasser tes limites. Quand tu crois que quelque chose est impossible à faire, tu te dis, c'est pas possible, là je cale. Là. Tout d'accord, mais là, pas possible. Pas possible. Ça t'arrive des fois? Bien fait. Alors il faut que tu comprennes que non, que c'est pas vrai. Que tu peux. Pourquoi? Parce que nous avons été dotés de cette force-là, le peuple d'Israël. C'est ça notre force. On a ce nom avec nous, Yud Kevake. C'est pas un nom qui est écrit sur vos tidourim. C'est un secret. Ce nom-là, c'est le nom de toute la vie, de tout ce qui te dépasse, de tout ce qui peut te faire monter, te dépasser, ouvrir tout devant toi. Rien n'est impossible. C'est énorme. Et c'est pour ça que les gens qui savent ce nom-là, et qui étudient ce nom-là, eh bien, ils sont à un autre niveau. Ils sont à un autre niveau. Pourquoi un sadique, il peut faire une bracha et la chose, elle change? Pourquoi? Pourquoi il y a un type qui est malade, il va voir un tel rav, il lui fait une bracha, le type il guérit. Pourquoi? Mais parce qu'il arrive à dépasser la nature grâce à cette force qu'il utilise. Parce qu'on a été doté de cette force-là. Vous comprenez ce secret?
La nature, elle veut pas.
Et la nature, elle ne peut pas faire autrement parce qu'elle a un créateur. Il y a quelqu'un qui l'a créé.
Mais un peuple comme ça qui défie ses lois, comment elle a le droit?
Tout simplement comme le peuple d'Hachem. C'est-à-dire que si c'est plus fort, le Yetzer Hara, c'est quoi? Le Yetzer Hara, c'est quoi? Ben, ce sont ces forces-là. Quand tu l'as battu, qu'est-ce qu'il vient te faire à la fin? Il vient te serrer la main. Il te dit, Chazak ou Baruch, je vois que tu m'as tout le temps, tu as tenu tête. Hein? T'es fort. Hein? Tu m'as défié. Moi, c'était la nature. Je te poussais à te dire, mais c'est complètement naturel. Comme on te dit aujourd'hui en psychologie que sortir sa semence tout seul, c'est normal. Tous les psychologues sont d'accord avec ça. Chas v'shalom. C'est normal de verser sa semence. Et toi, si l'enfant d'Israël, tu dois garder ce membre de ton corps propre et faire attention de ne pas, chas v'shalom, te toucher. C'est un dépassement complètement de la nature. C'est-à-dire que les nations du monde, elles sont soumises à la nature, elles sont faibles. Et le peuple d'Israël vient donner une leçon. Or, la Goïm, pour revenir à la lumière, à la véritable lumière. Donc en réalité, ce nom-là, c'est un nom secret. Asagevehu ki yada sheni. Ikraeni ve'e'enehu. Imo anochi betzara. Quiconque sait ce nom-là. Les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font les kabbalistes? Les grands sages d'Israël, ceux qui étudient les secrets de la Torah. Eh bien, ils savent tous ces noms. Ils s'occupent des noms. Parce qu'ils savent que les noms, c'est la clé. Et si tu connais les noms, eh bien, c'est des combinaisons, ce sont des énergies. Vous le voyez déjà avec votre bouche, que la parole, elle influence les choses. Quand vous allez dans tel cours, vous accrochez un petit peu. Quand vous allez dans un autre cours, vous accrochez plus. Et dans un autre cours, encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon d'utiliser le verbe. C'est des clés. Ce que je veux vous dire, c'est que la création du monde, en réalité, quand est-ce qu'elle s'est vraiment révélée? À la sortie d'Égypte. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, la Pazi, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde fut créé? Rabbi Eliezer dit que le monde fut créé quand? À Tishré. Et Rabbi Yoshua lui dit que le monde a été créé à Nissan. Vous comprenez en réalité la discussion qu'ils ont maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire?
Il dit que le monde il a commencé à parler.
Là, c'est dit que le monde a commencé à Zach ou Baruch, tu as bien compris la leçon. Regardez la profondeur de cette Gemara. Ils sont d'accord tous les deux, Rabbanim. C'est pas que ils sont en train de se dire non, c'est Tishré et Nissan d'abord entre nous. Il n'y avait ni Tishré ni Nissan. Le temps n'existait pas. Mais ça veut dire quoi? Où est-ce que je mets le poids, l'importance de la création du monde? Est-ce que c'est au moment où la matière a été créée? Les molécules et tout ça? Ou bien au moment où le créateur s'est révélé, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte? C'est ça la discussion.
C'est
étranger. Il y a fait, non, tu comprends maintenant? Et les Chachamim, leurs petits-enfants, les petits-enfants de Rashi, les Tosfot vont dire « Ellou, ve Ellou ». Dit vrai Elohim Chaim, les deux ils ont raison, il n'y a pas à trancher. L'un parle de la création de la matière, et l'autre parle de la révélation du Créateur. C'est tout. Mais le fait que la Gemara, elle ait associé ces deux événements dans une discussion, soi-disant, entre deux sages, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont la même importance. Ces deux événements ont la même importance, vous comprenez ça? Et c'est ça la clé. Donc je ne peux plus voir la sortie d'Égypte comme un événement, un des événements qui s'est passé. Non! Il y a un monde avant la sortie d'Égypte, et il y a un monde après la sortie d'Égypte. C'est plus le même monde. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Maintenant, le créateur du monde et toute sa volonté sont en train de se révéler. Pourquoi? Parce qu'on a découvert qui est le porte-parole. Le peuple d'Israël. Oulala, mais alors ça change tout. Alors on va recevoir des choses, ben oui. 50 jours après la sortie d'Égypte, on va recevoir la Torah. Ça y est, ça commence. Maintenant l'histoire va accélérer. On n'a rien à attendre maintenant. C'est-à-dire le monde, il attendait depuis la création que quoi? Que le peuple d'Israël apparaisse pour lui donner cette parole de Dieu qui était en Égypte.
Mais Abraham, c'était le premier,
non? Non, c'était un homme, donc il ne pouvait pas le voir.
Il ne peut pas,
c'est que la nation. Ce que je suis en train de vous dire, je veux que vous compreniez un petit peu plus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toute la Torah qui a été donnée en réalité au Mont Sinaï, elle était où en fait? Elle était où? Elle était en Égypte. C'est-à-dire, elle était dans la nature, cachée dans les lois de la nature. Mais tant que tu n'as pas quelqu'un qui est capable de lire, de décrypter, de décoder, tu ne vois rien. Donc, dès que celui qui est capable de décoder apparaît, eh bien, c'est fini, le monde est en train de changer. Donc en réalité, Dieu, il a libéré qui? L'Égypte. Le décodeur. Ok? C'est tout. C'est tout. Et ce décodeur, il s'appelle Israël.
Pourquoi il va encore en train de chercher son
livre? C'est ça le Inyan. Dieu nous a trouvés. On n'a jamais à chercher Dieu. Tu n'as pas à chercher Dieu. Il t'a déjà trouvé. Arrêtez de faire n'importe quoi. Au lieu de chercher Dieu, comprends qu'il t'a déjà trouvé, lui, il t'a déjà choisi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Décoder. Mais pour décoder, il faut que tu saches quelles sont tes capacités. En tant que peuple. Donc je dois étudier forcément qui maintenant? Le peuple d'Israël. Vous avez déjà étudié le peuple d'Israël? Rabotai, il faut faire un doctorat sur le peuple d'Israël. C'est ça la vraie étude de la Torah. Et c'est pas par hasard que le Ramchal nous dit, mais ça a été dit comme si c'était le Zohar. Kulcha berichu, oraita ve Israël, chad. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, c'est une seule et même chose. Ça veut dire quoi? Tout ça, ça a été libéré en Égypte. Tout ça, ça a été libéré d'Égypte. Tout ça s'est fait en Égypte. C'est-à-dire, c'est tombé dans les lois de la nature. Tu vois la nature, mais tu ne vois pas Dieu dans la nature. alors que tout parle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais toi, tu es incapable d'entendre. Mais si réellement tu joues ton rôle au niveau de la nation, tu es capable d'entendre. Est-ce qu'il y a eu des gens dans notre peuple qui étaient capables d'entendre ça? Oui. Quand est-ce qu'un homme il est capable d'entendre le langage des arbres et de savoir ce qu'ils disent, et les animaux, et le ciel, et la terre? Quand? Quand est-ce qu'il est capable de faire ça? Hein? Non. Oui, d'accord, mais quand, qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'il est quoi? Exactement. Quand il s'est relié à la nation tout entière. Donc ça sert à rien, je vous le dis tout de suite, de vous efforcer à comprendre les chats. Même s'il te dit « Jérémie !» C'est pas le prophète Jérémie. Ou « Jérémie !» C'est pas le prophète Isaïe. C'est sa manière à parler. Tu veux comprendre le langage du chat, il faut que tu comprennes Am Israël et que tu te relies à lui. Quand tu es relié au peuple d'Israël, tu peux comprendre le langage des arbres, de la nature, de tout ce que tu veux.
Il y a une chose qui va défendre tout ça, c'est qu'à chaque fois, pour les manifestations d'Hachem, il y a une brisure, c'est-à-dire du peuple. Parce que le peuple, on est obligé de casser sa nature pour que le réseau soit
sévère. Mais Shalom, au contraire, on est obligé de casser la pas la nature qui est autour de lui, c'est de briser ce que lui croit être la vraie nature. Mais c'est pas la vraie nature. C'est dénaturé, en fait. Ce que toi, tu crois aujourd'hui être ta vraie nature, c'est pas ta vraie nature.
C'est par la souffrance, c'est ça, je veux dire, souvent, c'est par la souffrance.
Il y a fait. C'est par exemple celui qui ne veut pas reconnaître quelque chose dans la Gemara, il y a marqué qu'on le frappe. Juste à ce qu'il reconnaisse. Pourquoi on le frappe? Makimoto, Akshiyomar, Modéani. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on frappe? On ne va pas le frapper pour le punir. On frappe sa fausse nature pour casser cette écorce qui est la fausse nature et après, qu'est-ce qui va se révéler? Modéani. C'est la vraie nature. Ta vraie nature, c'est Modéani. T'es capable de reconnaître, t'es capable de remercier, t'es capable de voir. Donc en Égypte, qu'est-ce qu'il fallait casser en fait? La fausse nature.
Mais ça passe toujours par là, parce que je vois dans un entraînement la même chose. Si on te casse pas, tu n'agrandis pas tes fils.
D'accord.
On oublie de te casser.
Ça veut dire qu'en réalité, la première étape, ce qu'on appelle, après l'existence de la chose, qui s'appelle Binyan, il y a un Khorban. Et après le Khorban, il y a un nouveau Binyan, mais le nouveau Binyan, il est plus élevé encore que ce que tu avais au départ. Tu as raison. Mais il faut tenir la route pour arriver au deuxième binyan. Binyan, Khorban ou Binyan Meshukhlal. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit au début de la création. Ra'a Akadosh Baruch Hu, Bet Amikdash, Banui, Harem, ou Banui ou Meshukhlal et Atid Labo. Toute notre vie, c'est comme ça. Non, ça fait partie de ce monde. C'est-à-dire la chute, elle fait partie de la structure de la nature. Même la création du monde, finalement, c'est quoi? C'est une perte, parce que l'infini, c'est beaucoup plus grand. Avant, on est d'accord? Donc pourquoi il a besoin de faire un monde? Donc le monde, la création du monde, c'est quoi? C'est la création de quoi? D'un manque. Donc déjà quand tu parles de la création d'un monde, tu parles déjà d'un vide, qu'on appelle halal. Et après, il faut remplir ça. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que ce monde marche. Et aujourd'hui, dans votre cas aujourd'hui, comment ça marche au niveau des cours? Eh bien, vous posez des questions. Chaque fois que vous posez une question, qu'est-ce que c'est la question en fait? C'est une chute. C'est une brisure. Pourquoi? Parce qu'elle crée un vide maintenant. Et ce vide-là, maintenant, il appelle quoi? La réponse. Ok? On dit en français, vous êtes avide d'apprendre. Donc, il est obligé d'être avide pour être à plein. Toda Rabba.